Honneur de père, honneur de roi.
Chaque tournoyeur se trouvait dans le pavillon de drap brodé où flottait sa bannière et s'y faisait équiper. D'abord les choses de maille auxquelles on fixait les éperons, puis les plaques de fer qui couvraient les jambes et les bras, ensuite le haubert de cuir épais par-dessus lequel on revêtait l'armure de corps, sorte de tonnelet de fer, articulé ou bien d'une seule pièce selon les préférences. Venait ensuite la cervelière de cuir pour protéger des chocs du haume et le haume lui-même, empanaché ou surmonté d'emblèmes et qui se lassait au col du haubert par des lanières de cuir. Par-dessus l'armure, on passait la cotte de soie de couleur éclatante, longue, flottante, avec d'immenses manches festonnées qui pendaient aux épaules et des armoiries brodées sur la poitrine. Enfin, le chevalier recevait l'épée au tranchant émoussé, l'écu, targe ou rondache. Dehors, le destrier attendait, couvert d'une housse armoriée, mâchant son mort à longues branches et le frontal protégé d'une plaque de fer sur laquelle était fixé, comme sur le haume du maître, un aigle, un dragon, un lion, une tour ou un bouquet de plumes. Des valets d'armes tenaient les trois lances épointées dont chaque tournoyeur disposait, ainsi qu'une masse assez légère pour n'être pas meurtrière. Les gens de noblesse se promenaient entre les pavillons, venaient assister au harnachement des champions, adresser aux amis les derniers encouragements. Le petit prince Jean, fils aîné du roi, contemplait avec admiration ces préparatifs, et Jean le Fol qui l'accompagnait faisait des grimaces sous son bonnet à marotte. La foule populaire, nombreuse, était tenue à distance par une compagnie d'archers. Elle verrait surtout de la poussière, car depuis 4 jours que les jouteurs piétinaient les lys, l'herbe était morte, et le sol bien qu'arrosé se transformait en poudre. Avant même que d'être à cheval, les tournoyeurs ruisselaient sous leurs harnois, dont les plaques de fer chauffaient au grand soleil de juillet. Ils perdraient bien 4 livres dans la journée. Les héros passaient en criant. « lassez haume, seigneur chevalier, et hissez bannière pour convoyer la bannière du chef !» Les échafauds s'étaient emplis, et les juges diseurs, parmi lesquels le connétable, messire Mils de Noyers et le duc de Bourbon, se trouvaient à leur place dans la tribune centrale. Les trompes retentirent. Les tournoyeurs, aidés par leurs valets, montèrent pesamment à cheval et se rendirent, qui devant la tente du roi de France, qui devant la tente du roi de Bohême, pour se former en cortège, 2 par 2, chaque chevalier suivi de son porte-bannière, jusqu'au lys, où ils firent leur entrée. Des cordes séparaient l'enclos par moitié dans le sens de la largeur. Les deux parties se rangèrent face à face. Après de nouvelles sonneries de trompettes, le roi d'armes s'avança pour répéter une dernière fois les conditions du tournoi. Enfin, il cria « Coupez cordes ! Hurlez bataille ! Quand vous voudrez !» Le duc de Bourbon n'entendait jamais ce cri sans un certain malaise, car c'était celui qu'autrefois poussait son père Robert de Clermont, le 6e fils de Saint-Louis, dans les crises de démence qui le saisissaient soudain au milieu d'un repas ou d'un conseil royal. Le duc lui-même préférait être juge plutôt que combattant. Les hommes préposés avaient levé leurs haches, les cordes se rompirent. Les porte-bannières quittèrent les rangs. Les valets à cheval, armés de tronçons de lance qui n'avaient pas plus de 3 pieds, s'alignèrent contre la main courante, prêts à se porter au secours de leur maître. Puis la terre trembla sous les sabots de 200 chevaux lancés au galop les uns contre les autres, et la mêlée s'engagea. Les dames, debout dans les tribunes, criaient en suivant des yeux le haume de leur chevalier préféré. Les juges étaient attentifs à distinguer les coups échangés afin de désigner les vainqueurs. Le choc des lances, des étriers, des armures, de toute cette ferraille produisait un vacarme infernal, la poussière faisait écran au soleil. Dès le premier affrontement, 4 chevaliers furent jetés à bas de leur destrier et 20 autres eurent leurs lances rompues. Les valets, répondant aux appels qui sortaient par la ventaille des haumes, coururent porter des lances neuves aux tournoyeurs des armées et relever les désarçonnés qui gigotaient comme des crabes retournés. L'un d'eux avait la jambe brisée et 4 hommes durent l'emporter. Mils de Noyers était maussade, et bien que juge diseur, ne s'intéressait qu'assez vaguement au spectacle. En vérité, on lui faisait perdre son temps. Il avait à présider aux travaux de la Chambre des comptes, contrôler les arrêts du Parlement, veiller à l'administration générale du royaume. Et pour complaire au roi, il fallait se tenir là, à regarder des hurleurs casser des lances de frêne. Il cachait peu ses sentiments.
« Tous ces tournois coûtent trop cher. Ce sont profusions inutiles et que le peuple blâme !» disait-il à ses voisins. « Le roi n'entend pas ses sujets parler dans les bourgs et les campagnes. Lorsqu'il passe, Il ne voit que Jean Courbet à lui baiser les pieds, mais moi, je sais bien ce que me rapportent les baillis et les prévôts. Vaine dépense d'orgueil et de futilité, et pendant ce temps, rien ne se fait. Les ordonnances demeurent à signer pendant 2 semaines. On ne tient conseil que pour décider qui sera roi d'armes ou chevalier d'honneur. La grandeur d'un royaume ne se mesure pas à ces simulacres de chevalerie. Le roi Philippe le Bel le savait bien, qui, d'accord avec le pape Clément, avait fait interdire les tournois.
Le connétable Raoul de Brienne, la main en visière pour observer la mêlée, répondit
« Certes, vous ne parlez point à tort, messire, mais vous négligez cet aspect du tournoi, qu'il est un bon entraînement à la guerre. »« Quelle guerre ? » dit Mils de Noyers. « Croyez-vous donc qu'on s'en ira en guerre avec ces gâteaux de noces sur la tête et ces manches festonnées qui pendent de 2 aunes ?» Les joutes, oui, je vous le concède, entretiennent l'habileté au combat, mais le tournoi, depuis qu'il ne se fait plus en armure de guerre et que le chevalier ne porte plus le poids véritable, a perdu tout sens. Il est même funeste, car nos jeunes écuyers qui n'ont jamais servi à l'ost croiront qu'à l'ennemi, les choses se passent de pareille façon et qu'on attaque seulement quand on crie « coupez corde ». Oh !
Mils de Noyers pouvait parler avec autorité, car il avait été maréchal à l'armée, du temps que son parent Gaucher de Châtillon débutait en la charge de connétable et que Brienne s'exerçait encore à la quintaine.
Il est bon également que nos seigneurs apprennent à se connaître pour la croisade, dit le duc de Bourbon d'un air entendu.
Mils de Noyers haussa les épaules. Cela convenait bien au duc, ce couard légendaire, de prôner la croisade. Mais Sir Mills était là de veiller aux affaires de la France sous un souverain que tous s'accordaient à juger admirable et que lui, par longue expérience du pouvoir, tenait pour peu capable. Une certaine fatigue survient à poursuivre des efforts dans une voie que personne n'approuve, et Mills, qui avait commencé sa carrière à la cour de Bourgogne, se demandait s'il n'allait pas bientôt y retourner. Mieux valait administrer sagement un duché que follement un royaume. Or, le duc Eudes, la veille, lui avait fait une invite en ce sens. Il chercha du regard le duc dans la mêlée et vit qu'il gisait au sol renversé par Robert d'Artois. Alors, Mils de Noyers reprit intérêt au tournoi. Tandis que le duc Eudes était replacé debout par ses valets, Robert descendait de cheval et offrait à son adversaire le combat à pied. Masse et épée en main, les deux tours de fer s'avancèrent l'une vers l'autre d'un pas un peu titubant pour s'accabler de coups. Mils surveillait Robert d'Artois prêt à le disqualifier au premier manquement. Mais Robert observait les règles, n'attaquait pas plus bas que la ceinture, ne frappait que de taille. De sa masse d'armes, il martelait le haume du duc de Bourgogne, écrasant le dragon qui le surmontait. Et bien que la masse ne pesât qu'une livre, l'autre devait en avoir le crâne rudement ébranlé, car il commençait à mal se défendre et son épée battait l'air plus qu'elle ne touchait Robert. En voulant esquiver, Eudes de Bourgogne perdit l'équilibre. Robert lui posa un pied sur la poitrine et la pointe de son épée au lassage du haume. Le duc cria merci. Il s'était rendu et devait quitter le combat. Robert se fit remonter en selle et passa au galop fièrement devant les tribunes. Une dame enthousiaste arracha sa manche, que Robert cueillit du bout de la lance.